Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important, je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Vous allez découvrir aujourd'hui Cynthia, une femme formidable qui partage son parcours marqué par la résilience, la douleur et la détermination. Son histoire révèle les défis complexes et les moments de force qui jalonnent son chemin vers la maternité. Cynthia, 39 ans, a vécu une série de hauts et de bas, des moments de joie intense à des épreuves déchirantes. À travers ses mots, elle nous guide à travers les différentes étapes de son parcours depuis sa première grossesse jusqu'à son implication dans un parcours PMA, en passant par des moments de bonheur éphémère et de pertes déchirantes. Dans cet épisode touchant et poignant d'État d'âme, Cynthia partage ses expériences, ses émotions et la façon dont elle a trouvé la force de persévérer malgré les obstacles. Son témoignage offre un aperçu poignant de la réalité complexe de la fertilité, tout en soulignant l'importance de la résilience et du soutien face à l'adversité. Plongez dès maintenant dans le récit sincère et puissant de Cynthia, une femme qui incarne la force, la persévérance et la capacité de se relever après chaque épreuve. Excellente écoute.
Stéphanie, alors avant de commencer, je voudrais te dire merci. Merci de me permettre de libérer ma parole sur ton podcast État d'âme. Et pour tout te dire, il y a à peu près plus d'un an et demi, vers avril 2022, j'ai voulu créer moi-même un podcast pour parler de ce que je vais partager, comme quoi ma voix sera quand même entendue via ce canal. Alors comme tu l'as dit, mon parcours commence en 2013, 5-6 mois après mon mariage environ, en janvier 2013. Alors, que s'est-il passé? J'apprends que je suis enceinte. J'ai ma première grossesse. Une grossesse où, a priori, j'avais pas de symptômes particuliers. Comment je l'ai découvert? En me promenant avec une amie. On allait faire des courses et puis je lui dis, elle venait d'avoir son bébé. Son bébé devait avoir 5 ou 6 mois. Et je lui dis, tu sais, moi j'ai eu des douleurs au bas du ventre. Et elle me dit, tu ne serais pas enceinte par hasard, tu devrais faire un test de grossesse. Donc j'ai gardé ça en mémoire. Donc, il faut savoir que moi, je venais tout juste, ça faisait à peine 2 mois que j'étais rentrée en Martinique. Donc, j'étais avec mon mari chez mes parents et j'étais libérale, infirmière libérale à ce moment-là et que je commençais des remplacements. Donc, j'ai pas eu de signe particulièrement à ce moment-là. Mais c'est après. En fait, une fois qu'elle m'a dit ça, moi j'ai commencé à sentir un symptôme que très peu de femmes ont. J'avais mes seins qui me démangeaient. Donc du coup, j'ai regardé sur Internet et effectivement, j'ai tapé sur un forum et on disait que c'était les symptômes un peu bizarres de la grossesse, hormis tout ce qui peut être nausée, etc. Et voilà. Du coup, moi, j'ai gardé ça en tête et puis moi, j'ai pas trop pu me fier à ce moment-là à mes règles puisque j'ai un cycle qui est assez long, surtout à cette période. Donc il faut savoir que donc c'était en 2013, donc déjà ça fait 10 ans, bientôt 11 ans en 2000. Dans un mois, du coup, en 2014, en janvier 2014. Donc, je ne pouvais pas me fier aux règles avec ce cycle long que j'avais à cette époque. Je pouvais très bien faire 36 et même 45 jours. Donc, ce n'était pas un signe annonciateur. Le retard de règles n'était pas un signe annonciateur de grossesse. Mais quand même... Donc, quelques jours après, je suis partie comme ça, ne voyant toujours pas mes règles arriver. Et j'ai acheté un test de grossesse et je me suis dirigée illico. Je n'ai pas attendu le lendemain matin comme c'est préconisé sur la notice. Je n'ai pas attendu d'avoir les urines concentrées, hein, le premier jet. Non, je suis allée directement et effectivement... J'étais enceinte, c'était inscrit 3 semaines et plus. Donc j'étais toute contente, je me suis dit non, c'est pas possible, j'étais toute contente, voilà, mais je pouvais pas trop l'exprimer parce qu'étant chez mes parents, mon père ce jour-là recevait des amis, mon mari était avec lui. Donc j'ai fini par appeler mon mari pour lui dire de venir parce que voilà, je pouvais pas attendre qu'il parte et en fait on était tout contents. Je vois encore l'attitude de mon mari. Comme s'il allait s'asseoir, il fallait qu'il s'asseye. Enfin, voilà. Donc, on a dû exprimer notre joie, mais plus ou moins tout doucement. Et donc, je pense, quelques jours après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille faire une prise de sang et que je prenne un rendez-vous, voir un médecin généraliste pour me prescrire une ordonnance pour une écho de datation. Donc, c'est ce qu'on fait. On se dirige vers le... Enfin, j'ai eu le rendez-vous, donc on se dirige vers cette clinique qui faisait les examens, les échos. On nous reçoit, donc nous, on est tout contents, tout excités. On va enfin savoir précisément de quand date cette grossesse. Voilà. Et mon tour est arrivé. Donc, le docteur, à ce moment-là, m'examine. Elle prend une écho endovaginale, donc bon, pas trop confort. Hein. Elle regarde, mais elle dit rien. Elle dit rien, voilà. Rien de précis. Elle est concentrée sur l'écran. Moi, je ne peux pas voir l'écran à ce moment-là, mais elle est dessus. On se regarde avec mon mari. Bon, voilà, silence. Et puis, elle finit par dire, vous savez, je vois pas d'embryon dans votre cavité utérine. Donc, on ne sait jamais. Dirigez-vous vite, rapidement, vers les urgences obstétricales. Mais surtout, il faut y aller aujourd'hui. Il faut y aller tout de suite et pas plus tard. Et donc, on y va. On se demande... à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est joyeux. Là, on est complètement dépité. En fait, on passe de la joie à la peur en quelques secondes et on nous dit de nous diriger vers les urgences. Nous, elle nous fait une lettre, etc. Moi, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je reste focalisée, mais je ne demande même pas ce qui peut se passer. Quoi. Si je ne me rends pas tout de suite aux urgences, je me demande pas, ouais, on ne se demande pas à ce moment-là ce qui peut se passer. Donc on arrive, on me demande est-ce que vous avez des douleurs, des saignements, etc. Je réponds non, donc je passe pas tout de suite, je suis pas prioritaire. On a attendu un long moment, mon mari qui lui était aussi stressé mais ne le montre pas forcément est sorti pendant que moi j'attendais. Et il demandait aux infirmiers qui étaient en pause, ou même peut-être aux médecins, qu'est-ce que ça pouvait être si l'utérus n'était pas encore, enfin si on ne voyait pas l'embryon, voilà. Puis on lui a même parlé d'œufs clairs, etc. Donc il revenait avec moi. Et puis vient mon, enfin il revenait me le dire, pardon. Et puis vient mon tour. Donc c'est un interne qui me prend et pareil, écho endovaginal. Et puis là il est là, donc confort pareil. Insupportable puisqu'il est en train de bouger la sonde. Il bouge, il dit rien. Et puis au bout d'un moment, il appelle un de ses collègues. Donc il y a une autre interne qui arrive. Et je comprends, j'entends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je discerne quelques mots, mais bon voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'autre interne essaye, elle fait la même chose, elle voit rien, et puis finalement elle appelle le docteur, la gynéco du service, et qui me dit « Bah madame, là vous venez de faire une prise de sang, vos taux il augmente, vous êtes à 9 semaines d'aménorrhée, donc 7 semaines de grossesse, mais on ne voit rien, donc on suspecte que l'embryon s'est logé ailleurs que dans votre utérus. » Donc vous faites peut-être une grossesse extra-utérine. On ne sait pas par contre où il est logé. Est-ce que c'est dans la trompe droite ou la trompe gauche ou ailleurs. Donc on va devoir regarder les deux autres. Mais franchement, un docteur super sympa qui m'a tout bien expliqué. Et donc voilà, ben là, à ce moment-là, je pleure tout simplement. Je pleure parce que je me dis, mais mince, première grossesse, qu'est-ce qui m'arrive ? Grossesse extra-utérine, mais j'ai pas eu spécialement mal. Après, je me rappelle effectivement cette douleur que j'avais eue au côté gauche. Je me dis, mais voilà, en tout cas, je pleure. Mon mari, lui, était là aussi, il a essayé de me rassurer. Il était également triste, mais il m'encourage toujours, il me soutient toujours. Il me dit que ça ira et il doit partir rapidement pour aller chercher ma mère parce qu'enfin on avait pris sa voiture et finissait le travail. Donc ensuite elle nous a rejoints. Donc elle qui ne savait pas que j'étais enceinte, bon voilà, elle me voit au bloc. Puis elle me dit bah, ça ira, de ne pas pleurer. Mais moi c'est tout l'inverse que ça me fait quand on me dit de ne pas pleurer. Bah, je lâche. Donc voilà, donc je me fais une... Je vais me faire cette douche préopératoire. Je crois que je réfléchis même pas à ce qui se passe. C'est ma première opération. Je n'ai jamais eu d'opération avant celle-ci. Et voilà. Et je me rappelle, en salle de réveil, je demande toute... j'étais toute... voilà, tout est bêté. Je sais pas. J'ai répété trois fois parce que je pense que je ne voulais pas entendre la réponse de l'infirmière et en plus avec les effets de l'anesthésisme. Mais je me souviens lui avoir dit on l'a retiré, elle me répond oui, on l'a retiré, elle me répond oui, une troisième fois on l'a retiré, elle me répond oui, et puis moi ben voilà, je pleure quand elle me le dit, je pleure, elle essaie de me réconforter, elle me dit mais vous savez, on vous a retiré une trompe mais il vous reste encore une trompe, et moi-même, j'ai subi ça, je sais ce que vous vivez, et j'ai trois enfants aujourd'hui, donc ça ira. Et ces encouragements, j'arrive pas à les prendre, j'arrive pas à les entendre. Tout ce que je veux, c'est un moment pour comprendre ce qui vient de se passer, comment j'ai pu passer de la joie à cette tristesse en peu de temps. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai su que... Je sais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais quand j'ai su que j'étais enceinte, dans mon esprit, il s'est passé quelque chose. Et j'ai même eu des symptômes de femme de grossesse. C'est-à-dire que mon odorat a développé. Mon mari mettait une huile de coco à cette époque sur ses locks. Et je pouvais le sentir, il n'était même pas encore rentré dans la maison que je pouvais le sentir à l'extérieur. Je sais que le matin, quand je me réveillais, j'avais des fringales et je pouvais manger une tartine de beurre ou du gruyère. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était intense. Et ensuite, je suis repartie, je suis restée deux ou trois jours, à l'hôpital. À la sortie, je suis passée devant en voiture une super boutique de périculture et je me suis dit waouh, ça c'est dur quand même. C'est dur, même si j'étais qu'à 9 semaines d'aménorrhée. J'ai pas eu le temps comme d'autres de sentir peut-être mon bébé bouger, etc. Mais c'est dans ma tête, j'allais devenir mère et c'était dur. J'ai eu un arrêt de travail et puis je suis restée à la maison. Donc on était déjà presque à la période du carnaval aux Antilles, donc en février. C'est une période qui est plus ou moins joviale, je dirais ça comme ça. Et moi, je me retrouvais là, mon mari travaillait, donc un peu seule. Je me sentais un peu seule parce que je ne pouvais pas le raconter, en fait, à tout. Je ne pouvais pas le dire, je ne voulais pas le dire forcément à ce moment-là ou le dire à une personne, mais pas le crier sur les toits. Et puis j'avais des douleurs au ventre. Pourtant j'avais eu cette opération sous celloscopie, mais j'avais mal au ventre à me courber. À cette période-là aussi, c'était très compliqué puisque j'ai une de mes cousines qui était enceinte, donc qui est tombée enceinte à la même période que moi. Je pense qu'on devait être à peu près au même terme de la grossesse et qui, elle, s'est retrouvée aussi hospitalisée parce qu'elle avait des saignements. Et je me rappelle lui avoir envoyé un message parce que j'avais eu de ses nouvelles en lui disant « T'inquiète pas, ça ira, tout va bien se passer. » Et puis m'être dit « Punaise, tout. » Voilà, elle sait même pas que tu viens de sortir de l'hôpital et que toi aussi tu étais enceinte et que tu viens de subir cette opération. Et j'étais là à l'encourager, et puis au fond de moi, c'était... Je pleurais en même temps, parce qu'elle ne pouvait pas savoir, donc je voulais pas qu'elle s'inquiète. Et en même temps, je me disais, ouais, dans ma peine, je dois encourager. Donc elle ne sait pas à ce jour, mais elle apprendra sûrement en écoutant. Donc voilà. Donc suite à ça, j'ai fait la consultation post-opératoire et on m'a dit que mon autre trompe était là, mais qu'elle n'était pas hyper belle, qu'il y avait des petites adhérences, elle avait un petit peu titillé, mais que si dans les 2 ans on me laissait 2 ans, puisque j'avais 28 à ce moment-là, on me laissait 2 ans et que si à mes 30 ans, 31, oui, mes 30 ans, j'avais pas de grossesse naturelle, de me diriger vers la PMA. Alors en 2015, j'ai commencé, comme je disais, ce parcours PMA. J'étais vers un gynéco de ville dans le 16e arrondissement de Paris. C'était une très très bonne amie qui me l'avait conseillé. Donc j'ai fait mon parcours avec tout ce qui est injection, prise de sang à surveiller à telle heure, ovule à mettre et tout ce qui va autour du parcours PMA. Et prise de sang, sérologie, tout ce que des couples ou qu'une femme connaît dans ce parcours. Ce qui n'était pas évident parce qu'effectivement, comme j'étais libérale, je devais parfois dire à ma collègue « Demain matin, je sais que c'est ton repos, mais est-ce que tu peux pas me faire juste les 2 premières, le temps d'aller faire la prise de sang, etc. ?» Donc c'était très fatigant. Et j'ai eu quand on fait tout ce qui est injection, donc il y a la simulation ovarienne, etc. Et ensuite vient la ponction ovarienne. Et cette ponction, je l'ai dégustée, j'ai eu très mal après, j'avais pas été correctement prémédiquée, voire pas du tout. Je préfère même dire que j'ai pas été prémédiquée. Donc j'ai dégusté, après la ponction, je me souviens, franchement, j'en garde pas un bon souvenir. Je suis restée dans le box 1 heure, on m'a dirigée ensuite vers une chambre. Parce que je vomissais, j'avais des douleurs aiguës, le temps qu'on me donne le médicament adéquat, parce qu'on me donnait du Spasfon, du Doliprane. temps d'avoir le palier supérieur, voilà, j'ai eu le temps de déguster. Donc je n'en garde pas forcément un bon souvenir. J'ai eu de cette ponction, il y a eu 3 embryons. On n'a pas pu me faire un transfert d'embryons frais parce que je réponds beaucoup très vite. Ça s'appelle une hyperstimulation, donc j'ai dû attendre qu'un cycle passe. On a congelé mes embryons et j'ai eu mon premier transfert. Donc le premier transfert d'embryons, c'est pareil, c'est on est excité, on se dit c'est bon, ça va le faire, on pense pas à l'échec, même si on sait qu'il y a l'échec, mais on n'y pense pas. On est heureux, on y va plein de force, on y va plein de foi. Et compliqué aussi parce qu'on doit boire. Moi, à cette époque-là, je me suis inscrite au parcours en 2015, mais j'ai commencé en 2016. Mais ouais, fin 2015 et j'ai commencé en 2016. Ouais. Et donc, on doit boire de l'eau, on devait boire de l'eau. Donc, je vous dis pas, il faut faire le transfert d'embryon, en tout cas pour cet hôpital-là. Il faut au moins que la vessie soit pleine 45 minutes avant, donc on a envie d'aller aux toilettes, on est couché, il y a la sonde, le transfert, l'intimité, il y a le médecin en plus, il y a la caméra, bon voilà. Moi j'avais très très envie d'aller aux toilettes, compliqué, je ne l'ai pas du tout vécu ce moment, mais quand même je me suis dit, allez, on garde la foi et on verra dans 2 semaines cette fameuse prise de sang pour voir si je suis enceinte. Et on y pense. On travaille, mais on y pense. On essaie de se dire, allez, on fait autre chose, mais non. On a la tête pendant les 2 semaines à ça. On se dit, allez, plus que... On fait un décompte. Donc, c'est le décompte que j'ai fait. Puis le jour arrive, on veut être la première à prendre à faire la prise de sang. On regarde son téléphone pour avoir les résultats. Et puis là, j'ai vu que j'étais pas enceinte. Donc on se dit, un nouvel échec. Je téléphone mon mari. Pareil, il me dit que c'est pas grave. On garde foi. Le prochain, on y croit. On ne se décourage pas. Ce qui doit venir arrivera. Donc on a fait le deuxième transfert. Donc finalement, le deuxième, ils ont décongelé un embryon. Donc il y a un embryon qui n'a pas tenu. Donc il m'en restait plus qu'un. Et le dernier, pareil, n'a pas tenu. Alors là, c'est vraiment aussi la désillusion parce que moi, j'avais quand même mes parents qui le savaient, ma sœur et mon frère. Parce que non seulement ils ont vu que, ils ont su que j'ai été douloureuse, que j'étais enceinte, et puis même si je voulais pas le dire autour de moi, on a quand même mon mari est là, mais il y a quand même ce besoin d'en parler aussi à d'autres personnes. Donc eux, ils le savaient et ils m'encourageaient, ils me disaient ne baisse pas les bras, ça arrivera. Donc voilà. Entre-temps, à cette période-là, moi, comme je crois en Dieu, je sais que c'est ce qui m'a fait tenir, c'est ma foi. C'est ma foi, je continue à persévérer, je me dis que de toutes les façons, ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Donc là, on est en mars 2016, parce que je me souviens bien des dates, à peu près. Je n'ai plus d'embryon et je me dis quand même, je n'ai pas un bon souvenir de la ponction ovarienne. Donc si je dois recommencer tout le parcours et tout, compliqué. Comme je disais, c'est vraiment pas simple parce que c'était pas simple au niveau de mon travail, mais aussi quand on est invité chez la famille ou chez des amis, qu'on a des unités, les injections qu'il faut faire à 19h. Il faut aller dans la voiture, on dit hop, je sors, et puis on va se faire injecter, et puis on revient comme si de rien n'était. c'est assez compliqué. Alors je me disais, il va falloir revivre tout ça. Mais je garde espoir, je prie, je discute et je pense que ça va arriver. Alors, comme tout est bien fait, malgré tout, cette année-là, je décide de passer mon concours de péricultrice, d'arrêter le libéral, de faire vraiment ce que je voulais faire depuis que je suis devenue infirmière. Et donc du coup, je réussis mon concours d'infirmière péricultrice et je rentre en septembre 2016 à l'école pour une durée d'un an. Et c'était une période compliquée au niveau des études, mais comme je voulais faire ça, j'étais contente, j'étais heureuse d'aller à l'école, j'avais mon mental qui était quand même assez bon, je ne pensais plus aux injections, je ne pensais plus forcément, voilà, j'étais plus dans cette sphère de la PMA. Donc je me suis dit, et on s'était dit avec mon mari, que voilà, ça allait nous faire du bien avec mon mari et que de toute façon, on ne sait jamais, un miracle peut se faire. Je peux très bien être enceinte naturellement pendant cette période. On avance, on s'occupe. Moi, je m'occupe de mon diplôme. Lui aussi, il se spécialise aussi dans son domaine. Donc après, il y aura deux étudiants cette année-là. Donc on a d'autres perspectives. Et ce qui est fort, c'est que je me dis, mais Cynthia, t'apprends tellement de choses cette année, tout ce qui est accompagnement avec les enfants et les bébés. Mais franchement, quand tu vas être enceinte, tu vas tout déchirer, en fait. C'est ce que je me dis. Je me dis, il tarde à venir, mais quand il va venir, ça va être fort, ça va être fort. Tu t'apprends énormément de choses sur le devenir parent, sur l'enfance, voilà. Et c'est une année aussi où j'ai deux de mes amis à cette période qui ont également vécu des choses difficiles au niveau de la maternité, et mon épreuve précédente m'a permis de mieux les accompagner. Donc ce que j'ai vécu, j'ai pu les encourager et elles m'ont fait du bien aussi parce qu'on se comprenait. Voilà, on se comprenait, on s'est encouragé, on savait quoi dire, quoi ne pas dire. Et c'est ça cette année. Et l'autre versant, mis à part tout ce qui est études et années compliquées avec les stages et tout, c'est que j'ai dans mon entourage, donc vous allez m'entendre parler de cousines, mais en fait on a le même âge à peu près, on est dans la même, c'est la même génération. J'en ai deux qui ont appris leur grossesse. Et là, c'est plus ou moins compliqué parce que je suis heureuse pour elles. Je crois qu'à ce moment-là, elles ne savaient pas encore. Donc, il y a les baby showers qui arrivent. Et là, il faut être heureuse pour elles. Il faut participer au jeu. Il faut... Je partage leur joie et en même temps, je me dis, si elles savaient ce que j'avais vécu, c'est compliqué là pour moi. On me dit, alors Cynthia, et toi, c'est pour quand? Et je leur dis, oui, il y a des études, donc on verra. Et en même temps, je dis, si elles savaient que j'étais déjà enceinte, si elles savaient. Et puis en plus, après, généralement, les gens autour de toi, ils attendent après ton mariage que tu sois enceinte. Donc c'est à ce moment-là, voilà, on me posait cette question 2 ans après mon mariage encore. Alors, et toi? Donc voilà, les baby showers, je devais faire comme je pouvais. J'étais contente, mais j'avais un sentiment de tristesse. Et puis même après, il y a quelque chose qui vient de l'amertume, qu'on ne montre pas, mais quand on est chez soi, après, on est complètement... lessivé, fatigué, et puis il y a tous ces échanges de groupes WhatsApp où il faut organiser les baby showers, penser aux cadeaux et tout, et c'était compliqué cette année. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai vécu cette année, et je me disais quand même, mon tour viendra, patience, sois heureuse, sois
heureuse pour elle.
Sois heureuse.
Mais je me dis pas, malgré tout, je me dis pas que je vais faire un nouveau parcours. Là, un nouveau parcours PMA. Là, je reste quand même focalisée que je peux être enceinte naturellement durant cette année. Donc, voilà. Donc, je suis diplômée en octobre 2017. Je suis péricultrice. Je m'accorde, donc je suis heureuse, etc. Je le crie sur tous les toits. Et je décide de m'accorder un mois de vacances. Et en novembre 2017, je vais faire avec mon frère et ma sœur, on va dans un centre co pour pouvoir commencer à faire des achats de Noël. Et puis voilà, donc on se promène, on vient d'arriver. Et puis moi, d'un coup, je marche. Et plus on avance de magasin en magasin, plus j'ai une douleur au bas du ventre. Mais sachant que j'ai du retard cette fois-ci, je ne pense pas du tout à une grossesse, etc. Je me dis, là, j'ai du retard. Tu as déjà eu du retard les mois précédents. En plus, à ce moment-là, j'ai des règles douloureuses. Je me dis, ah, mes règles vont arriver. Et comme j'ai du retard, je vais déguster. Donc, je continue et je vois que ça s'amplifie. Au bout d'un moment, je dis à ma sœur de continuer. Et je demande à mon frère de m'accompagner, que je vais m'asseoir parce que là j'ai très mal, limite à vomir, ça monte. Je prends l'ascenseur, je me souviens, je suis toute pâle, il me dit que j'ai des lèvres blanches, je vais m'asseoir sur les bancs du centre commercial et je lui dis oh là là, je peux pas, si j'arrive pas, va falloir appeler les pompiers. Mais sinon, va à la pharmacie, je trouve cette force et je lui dis demande un traitement. Demande un antalgique, un anti-inflammatoire, je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai dit. Et puis on verra ce qui se passe. Et je me souviens, les gens ils me regardaient, moi j'étais là, je ne voulais pas montrer que j'avais envie de vomir, j'étais dans ma douleur pliée, j'avais envie de m'allonger sur le banc. J'étais allongée, j'avais ma tête sur les genoux et j'avais envie de crier. Mon frère, quand il est arrivé avec le médicament, je l'ai bu. Je pense que c'était un truc flash parce que quelques minutes plus tard, c'est comme si de rien ne s'était passé. Et là, je me suis dit, Cynthia, tu vas vraiment déguster quand tes règles vont arriver. Voilà, je ne pense à rien d'autre. Et sur la route, quand je les ai déposées, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore de voiture, je les dépose chacun chez eux. Je me dis, mais Cynthia, je crois qu'il y a 2-3 jours, en fait, les douleurs au sein que tu peux ressentir là, normalement, à l'arrivée de tes règles, peut-être que cette fois-ci, tu es enceinte. Et puis le matin, quand tu ouvres tes yeux, tu as l'impression que tes yeux sont secs, d'avoir une sécheresse oculaire, mais ça peut-être un symptôme bizarre. Puisque la première grossesse, tu avais un symptôme bizarre, peut-être que cette deuxième, tu peux avoir. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc je m'arrête, clac-clac, aussitôt, pharmacie, je prends, j'arrive. Presque comme la première grossesse, il y a ma belle-mère qui est en vacances à ce moment-là, qui était venue chez moi. Et je dis bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Je vais tout de suite aux toilettes, comme si de rien n'était. J'ouvre tout doucement pour pas qu'on entende ce que je fais dans les toilettes. Et pareil, j'ai pas attendu le lendemain matin. Hop, test de grossesse. Positif et pareil, c'est écrit 3 semaines et plus. Et là, je me dis, oh là là, trop contente. Ben, cette fois-ci, j'essaye de me contenir. Je parle avec ma belle-mère, mais je suis vraiment pas dans la discussion. Elle est partie le soir. Et tout de suite, j'ai dit à mon mari, j'ai montré j'ai pas fait de scénario en fait, comme on peut le faire. Comme certaines peuvent le faire quand elles sont enceintes, moi je ne pouvais pas. J'ai pris mon test et je lui ai montré. Et là, pareil, on a explosé de joie. Enfin, franchement, je vous laisse imaginer. Et je me suis dit, bon, vu ce qui s'est passé la première grossesse, Cynthia n'attend. Enfin voilà, parce que là c'était le week-end, donc dès lundi, tu vas. À faire une prise de sang et puis ensuite tu vas chez la gynéco. Donc prise de sang, ok, positif. Alors là, je me rappelle pas enfin, je me rappelle pas le taux du I, le taux des bêta HCG que j'avais, mais bon, j'étais bien enceinte. Bon, j'avais 7 semaines d'aménorrhée. Donc j'y vais, je prends rendez-vous chez la gynéco, ouf, il y a une place qui s'est libérée, et puis là, dans la salle d'attente. Mon cœur, il bat, j'ai des tachycardies, mon cœur, il bat à fond, je tiens plus en place, en plus elle a du retard. Je me dis vite fait que je sache que tout se passe bien, parce que franchement, là, je vais faire un malaise de peur, quoi. Mon mari qui me dit, mais ça va aller, ça va bien se passer et tout. Donc je raconte mon parcours à la gynécologue. Donc voilà, elle fait l'écho pelvienne, ensuite endovaginale, et puis elle me dit tout de suite, par contre elle n'a pas pris beaucoup de temps, elle me dit, ben oui, vous êtes bien enceinte, le bébé il est dans l'utérus. Donc moi je me dis, oh yes, super, on se dit pareil avec mon mari, on se regarde, on est content, on se dit, ça si c'est pas un miracle de Dieu, c'est quoi, avec une seule trompe, une trompe qui est plus ou moins belle, pour reprendre le terme, et ben là je peux avoir un enfant naturellement, j'ai cette grossesse. Puis elle termine en me disant, par contre, le taux que j'ai en écho et le taux que vous avez sur votre prise de sang, je ne sais pas, ça ne correspond pas à ce que je vois. Il m'a l'air petit par rapport au taux. Alors, vu ce qui s'est passé lors de votre première grossesse, je vous conseille, je vais vous prescrire une prise de sang que vous allez faire toutes les 48 heures. Et dès que vous avez les résultats, à chaque résultat de prise de sang, vous m'appelez. Donc, sauf ce que je fais. Et ensuite, elle confirme qu'il est trop petit. Donc, elle me conseille d'aller. Elle ne veut pas prendre de risque. Et elle me conseille. Mais je pense qu'elle savait déjà. Peut-être qu'elle pensait déjà à une fausse couche, mais elle ne me l'a pas dit. Mais elle me conseille de me rendre dans... elle me conseille de me rendre... aux urgences. Et donc on fait ça pendant je fais ça dès le lendemain, enfin le soir même, je me rends aux urgences obstétricales. Et quand je rentre chez moi le soir, j'ai des douleurs et des saignements que je n'avais pas avant cet écho. Au départ, je me lève, je dis rien encore, je dis, ah tiens, j'ai des saignements. Bon, je sais que ça peut arriver, j'ai écho que certaines femmes en début de grossesse ont des saignements. Donc je m'inquiète pas tout de suite, mais au fil du temps, je commence à avoir mal au ventre et les saignements qui s'intensifient. Alors là, oh là là. Je demande à mon mari, je me vois allongée sur le canapé et je dis à mon mari, est-ce que mon mari qui prend l'initiative d'appeler les urgences gynécologiques, qui leur disent que voilà, qui leur explique que j'ai des saignements et que j'ai très mal au ventre. On lui explique que ça pouvait arriver parce que le col à ce moment-là est fragile, il est énervé, donc ça peut arriver. Donc ils nous ont dit de patienter, que si demain ça continuait, de revenir. Donc, on attend, on patiente, et puis plus l'heure passe, plus mes douleurs montent crescendo. Plus les douleurs, je me revois recroquevillée. Et je gémis, je vais dans la chambre, et je gémis, je prie. Et mon mari qui ne sait plus quoi faire pour me soulager, de me voir dans cet état, Il gère très très bien la situation, mais au fond lui il me le dit pas, mais il a mal, il me dit oh là là, il finit par dire mais si ton début de grossesse est comme ça, ben franchement il faut que ça s'arrête parce que non tu vas pas, enfin c'est compliqué là. Il me dit est-ce que tu veux aller aux urgences, et moi mon corps est urgence là. Je crois qu'il a subi le traumatisme de la première grossesse. Je dis non. Je dis pas non comme ça. Je dis non. non, pas les urgences, non, je veux pas aller à l'hôpital et tout, enfin voilà. Et je pleure, bien sûr. Et quand la douleur vers 2h du matin commence à être vraiment insupportable, j'ai brusquement une douleur incroyable, là je dis ok, on y va. J'arrive même pas à me redresser sur mon lit. Il met mon pantalon et quand je lui dis mais j'arrive même pas à me lever, je me souviens avoir dit ça. Et il me dit, il me prend, il me soulève et quand il me soulève, je sens quelque chose que je souhaite à, franchement. Enfin voilà, je le souhaite à personne. Je sens cette masse qui tombe. Je sens quelque chose comme une boule qui tombe. Et je me dis, il faut que j'aille aux toilettes. Et en allant aux toilettes, je lui dis, je crois que c'est fini, je crois que j'ai fait une fausse couche, je crois que je l'ai perdue. Je lui dis ça, en fait. Et je vais aux toilettes et je me dis, Cynthia, regarde pas, surtout tu tires la chasse mais tu regardes pas, parce que je sais que j'ai rencontré des femmes et même pendant mes stages de péricultrice qui disaient qu'elles avaient vécu des fausses couches, qu'elles avaient vues dans les toilettes et ça les avait profondément traumatisées, et je pense que j'étais déjà assez traumatisée pour regarder, donc j'ai tiré la chasse et là je me suis effondrée. Et je me suis dit, il faut qu'on aille aux urgences. Je sais que c'est une fausse couche, mais qu'il faut qu'on aille aux urgences. Et sur la route, on essaye de mettre de la musique. J'essaye comme je peux, j'ai plus de douleurs atroces. J'ai mal, mais j'ai plus ces douleurs aiguës. J'ai encore ces saignements et c'est mon mari qui craque. Parce qu'il m'a vu souffrir de 20h jusqu'à 2h en train de crier. Et là, il craque et il me dit, oh là là, ça recommence, pourquoi ça recommence? Et c'est moi qui essaie de le réconforter parce qu'à ce moment-là, je trouve cette fois-ci cette énergie. Et je lui dis, bah écoute, on verra ce qui se passe, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc on arrive aux urgences, on te prend en charge, voilà. Et l'interne qui regarde et qui me dit, ben voilà, parce qu'il manque d'effectifs, donc on passe peut-être vers 4h du matin, 5h, et elle me dit, voilà, vous avez effectivement fait une fausse couche, vous avez évacué, là je vous ai juste retiré les débris. Les quelques débris, puis on fait une prochaine prise de sang pour voir si le taux diminue. Et puis voilà. Donc voilà, on rentre chez soi. Heureusement que je ne travaillais pas parce que j'avais dit dans la voiture, il m'a même pas proposé un arrêt de travail. On rentre chez soi et puis on est fatigué de la douleur, fatigué de ce qui vient de se passer, triste de subir ça une deuxième fois. J'ai eu une grossesse extra-utérine avec ablation d'une trompe, pour la première grossesse, la deuxième grossesse, une fausse couche. Après, on téléphone un peu sa famille le lendemain. Il faut savoir que moi, ma famille est au courant, la famille de Serge c'est mon mari, il ne voulait pas le dire à sa mère, ni à son entourage. Donc voilà, à ce moment-là, comme on a vécu. Et puis, moi, je finis par le dire à mon amie, que je considère comme une de mes meilleures amies, qui a vécu, qui m'apprend qu'elle avait vécu la même chose quelques mois en arrière, qui me raconte aussi son parcours, et du coup, ça me libère. Et je subis les tranchées, voilà, les douleurs d'une femme enceinte après. Donc, très douloureux. Je vais à la douche, je ressors de là, je supplie en deux. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au ventre comme ça? Des douleurs qui durent pendant 15 minutes, qui sont intenses, qui partent, qui reviennent, qui durent pendant une heure et ensuite plus rien. compliqué l'après fausse couche en fait, parce que finalement on doit le dire à personne. Je suis enceinte mais pas vraiment aux yeux de personne. Alors on m'a proposé de voir une psychologue si je le souhaitais, mais j'avais pas envie d'en voir une pour le moment. Donc j'étais aussi dans cette ambivalence. En fait, on ne sait pas trop. On a envie de parler. En fait, on a envie de se confier à une amie, pas forcément à l'entourage familial, mais à des personnes qui ont pu vivre ça. C'était ça, mon besoin du moment, qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'après, je me suis dit, allez, je ne vais pas le dire. Et donc, ouais, genre, c'est pas... C'est pas une bonne période. Fin 2017, c'est pas une bonne période. 2019, ça n'a pas été simple. Ça a été très difficile également. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je subis l'ablation de ma deuxième trompe. Donc on n'a que deux trompes, donc de ma dernière, donc j'en ai plus. Donc il faut savoir que entre 2017 et 2019, j'avais pas repris de parcours PMA. J'étais restée sur ce miracle malgré tout d'avoir une grossesse naturelle. Et c'est arrivé en juillet 2019, j'ai appris que j'étais enceinte là. De ma troisième grossesse, je me souviens que là, cette fois-ci, c'est un retard de règles que j'avais eu. Et puis aussi au niveau de... J'avais eu le symptôme de nidation. J'avais eu des saignements, donc c'est pas les mêmes saignements à cette période. Donc là, pour le coup, j'ai pu savoir que j'étais enceinte et j'avais aussi mal au sein. Voilà. Donc je me souviens que j'avais pris, vu que là à ce moment-là j'étais directrice maintenant d'un centre de PMI, je pouvais exercer mon travail dans un centre où il y a aussi des tests de grossesse. Donc je me souviens et je me revois être partie aux toilettes tranquillement, j'en ai même fait deux, mais bon, faut pas trop le dire trop fort. Non voilà, j'ai découvert que j'étais enceinte comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'à cette... Parce que, voilà, j'avais une gynécologue qui était aussi pédiatre, donc du coup, je lui ai demandé, avec mes deux parcours, j'ai dû lui raconter, et je lui ai dit de me faire une prescription de bêta-HCG et d'une écho de datation, chose qu'elle a faite. Et j'ai pu faire ma prise de sang le lendemain, et ensuite, il fallait prendre rendez-vous pour l'écho de datation. Mais je n'ai pas pu faire cet écho parce que durant la semaine, donc il faut savoir que j'ai fait ma prise de sang le vendredi. Donc j'ai fait ma prise de sang le samedi, j'avais eu mes résultats le samedi, et que le mardi, j'ai ressenti du coup au travail des douleurs et de nouveau des petits saignements. Et là, le cœur commence à rebattre. On a tout qui commence à s'enchaîner dans sa tête. Et on se dit, pourvu que ça ne recommence pas. Et en même temps, il y avait un manque de personnel dans mon centre, dans le centre de PMI. J'étais qu'avec une seule collègue. C'était le jour des consultations pédiatriques. Et comme font la plupart des gens quand ils doivent gérer un centre, et ben on montre que tout va bien, voilà, que ça va. À ce moment-là, mes collègues ne le savaient pas forcément, juste mon adjointe, enfin l'adjointe qui était infirmière, avec qui je m'entendrais très bien. Par la suite, la psychologue, parce que voilà, j'ai dû en parler, mais à ce moment-là, voilà. Donc... Il faut montrer que tout va bien. Et j'ai eu très, très mal. Très, très mal. Et j'allais aux toilettes. Et je voyais que mes saignements s'intensifiaient. Donc, j'ai dû dire au médecin et à ma collègue que je partais, que j'étais désolée. Je suis partie. Et sur la route, je pleurais. Pour tout te dire, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver chez moi. Tellement j'étais désorientée, j'ai appelé mon mari qui lui venait de prendre son nouveau poste. Je lui ai dit en pleurs, il faut que tu viennes parce que là, il faut que tu me viennes me chercher à la maison parce que là, je rentre. Je viens de partir parce que là, j'ai des douleurs et j'ai l'impression que ça va recommencer. Je lui ai dit ça comme ça. J'ai l'impression que ça va recommencer. Ça va recommencer et il faut qu'on aille aux urgences. Et là, il s'est dépêché. Je crois qu'on est arrivé en même temps au boulot, chez moi. Les douleurs se sont intensifiées à tel point que j'étais de nouveau pliée en deux. J'avais de nouveau le cœur qui battait la chamade. Je ne pouvais pas me déplacer. Il faut savoir que les urgences gynécologiques, elles sont au fond de l'hôpital, que le parking, il est devant et qu'il fallait que je me tape, du coup, ce qui me semblait durer 10 minutes à pied. Heureusement, il y avait un petit véhicule qui ressemblait à un buggy. Qui était là, je dis que c'était juste pour moi. Je suis arrivée pliée et dès qu'on m'a vue, on m'a dit « Ah, on sait pourquoi je viens ». Donc on m'a pris en charge, on m'a soulagée au niveau de mes douleurs et cette fois-ci on m'a fait pareil, hein, l'écho endovaginal. On le voyait pas, mais on savait pas trop parce que là j'étais pas trop avancée. Je pense que je devais être voilà à un mois, mais enfin on le voyait pas. Donc, vu mon parcours, on m'a dit de refaire une prise de sang et de revenir tous les deux jours. Donc, j'ai entendu le même scénario. Donc, je l'ai fait pendant une semaine. J'étais en arrêt de travail. Et puis, arrive le 14 juillet où là, on me dit le taux augmente, mais on ne le voit toujours pas. Donc, avec ce que vous avez fait, on suppose qu'il est dans votre trompe. J'appelle mes parents. J'avais mon mari avec moi. Et puis moi, je ne sais plus quoi faire. Je dis, c'est bon, là, j'en ai marre. Et voilà, tout recommence. Le même scénario, la joie, la tristesse, tout. Mais ce qui m'a aidée, c'est vraiment qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. Mon mari venait aussi de faire une rencontre intime, formidable aussi, avec Dieu. Et je me suis attachée sur ce qu'on avait eu, sur notre foi. Et je l'ai pris... J'étais aussi attristée, mais je me suis fortement appuyée sur Dieu. Là, mon réveil, j'ai pas du tout dit à mon réveil est-ce qu'on me l'a retiré. Là, c'était plus une douleur, une douleur suite à l'opération. Et puis le lendemain, j'ai eu. Je savais de toutes les façons que là, niveau humain, sur le plan humain, médicalement, on allait me proposer de toutes les façons à la PMA, donc ce qui a été très bien fait. Le lendemain, j'ai eu le docteur de PMA, de gynéco, qui est venu me voir et qui m'a dit on va essayer de reprendre un parcours PMA dès septembre. Déjà, vu votre âge, donc là, j'avais 35 ans. Donc, on m'a dit, vu votre âge, puis bon, même si c'est pas vieux, mais là, c'est sûr que c'est une infertilité mécanique, parce que du côté de mon mari ou moi-même, tout allait bien, là, c'est vraiment mécanique. Vous allez rentrer dans un parcours en septembre. Donc, je suis partie en vacances, et puis, ce qui est choquant, c'est que quand je suis partie en vacances, à la vue de mes règles, autant je n'avais pas pleuré, je n'avais pas extériorisé après cette deuxième trompe, ablation de ma trompe, j'ai craqué aux toilettes. J'ai craqué aux toilettes, j'ai carrément dit, j'ai pleuré, je dis « Oh non, j'ai mes règles !» et j'ai pleuré. J'ai relâché comme ça. Et voilà, par contre, en revenant beaucoup plus fragile mentalement quand même, j'étais plus forte mais plus fragile parce que là, je dirais que j'étais plus fragile parce que là, je reprenais le parcours PMA, je savais que j'allais de nouveau faire cette ponction ovarienne, avoir de nouveau ces injections, les rendez-vous au laboratoire, il n'y a rien d'intime. Même si là, ce deuxième parcours, j'avais bien été pris en charge et tout. Mais voilà. Donc heureusement, j'ai pu faire des petits voyages, m'aérer l'esprit avec ça, avec mon mari, m'appuyer sur ce qu'on avait, enfin, dans ma prière avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Puis en même temps, quand je recevais ces mamans avec les bébés, de voir des grossesses, puisque je suis dans un sens, c'est ma fonction, c'est mon métier qui valait ça, ben, j'essayais de pas trop de mettre une distance, et je me souviens qu'un jour, quand j'ai eu fini finalement, j'ai eu, alors de cette PMA, j'ai eu de nouveau 3 embryons. Et ben, les trois embryons n'ont pas donné, n'ont pas tenu, j'ai pas eu de grossesse. Le troisième embryon, je pense que là, j'en pouvais plus. Je me souviens que dans ma PMI, je devais recevoir des députés, puisque chaque année, ils viennent dans les PMI pour savoir comment l'année s'était passée, etc. Et que je venais d'apprendre juste 5 minutes que mon dernier embryon, ben voilà, pas de grossesse, et qu'il fallait faire bonne face. Donc fallait donner bonne impression devant mes collègues et devant ces députés. Devant ces députés et leur dire bonjour, tout va bien. Voilà, alors que je pleurais à l'intérieur et je me souviens que dès le lendemain, je suis allée voir la psychologue de ma PMI que j'ai craqué, j'ai pleuré. Je lui ai dit que là, j'en pouvais plus, que j'étais bien entourée, mais que mon mari était là, mais que là, c'est trop d'être entourée de ses bébés, d'être entourée de ses mamans enceintes, et j'en pouvais plus. Donc je me suis confiée à elle, je la remercie parce que ça m'a aidée. Et puis voilà, donc ça m'a fait du bien, mais malgré tout, j'avais quand même cette distance. Cette distance, je prenais aussi encore très très bien en charge les familles qui venaient et les bébés, mais je m'autorisais pas trop à rester, à être dans l'échange avec les bébés, parce que je pouvais pas, tout simplement. J'ai entamé du coup mon deuxième parcours PMA suite à l'appellation de ma trompe, là, de ma deuxième trompe. Donc je me suis inscrite au parcours en septembre 2019 et j'ai eu mes deux premiers transferts en 2020. Et puis, à chaque fois qu'on m'a fait le transfert des deux premiers, il y avait une interne qui était là, qui était différente, et qui, pendant les transferts des embryons qui étaient décongelés, avait dit « Ah ben tiens, regarde, il y a quelque chose sur l'écho. » Et si tu veux, le médecin, le docteur, je ne sais pas, n'avait pas pris en compte ce moment-là, ou peut-être qu'elle se disait de toutes les façons, même s'il y a quelque chose, on a déjà décongelé l'embryon, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, on fait quand même le transfert. Et moi, je me disais, oh là là, on fait le transfert, on est 4, il y a l'interne qui est là, qui met quelque chose de négatif durant ce moment. Enfin bref. Et avant de faire des parcours à PMA, comme je te disais, il y a un check-up qui est fait. Donc mon utérus était impeccable, il y avait rien de spécifique. Et puis avant de faire ce troisième et dernier transfert. En février 2021, on me dit que j'ai un polype. Donc polype, honnêtement, que je mets sur le compte de tout ce qui est injection. Mais là, ce n'est que moi. Que tout ce qui est injection, c'est des hormones, hein, c'est de l'hyperstimulation. Donc la muqueuse utérine doit avoir une certaine épaisseur. Donc, je pense que ça participait à la formation de ce polype. D'ailleurs, Moi, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette fibre de faire attention à ce que je mets sur moi avec les perturbateurs endocriniens. Je ne dis pas que je fais tout, mais je suis aussi assez attentive. Donc, je pense que c'est lié à tout ça. Et en février, on m'a dit, avant de faire ce troisième transfert, et en plus, vous avez des douleurs menstruelles là, qui s'étaient activées du coup, mais que moi je mettais sur le compte des injections. On m'a dit on va le retirer. Donc, tu te dis tu repasses sur la table encore une fois. Donc tu t'absentes encore du boulot. Et puis, en plus, moi j'avais un concours dans pas peu de temps pour être titulaire de la fonction publique. C'est un petit détail, mais voilà, donc on m'a fait cette ablation de polype, et puis après, mis à part le cycle suivant qui a été hémorragique pour moi, en plein travail, toutes les heures je devais aller me changer, en plein boulot, je dirais que je me disais, peut-être que ce qui va faire, ce qui empêchait que j'ai justement que l'embryon s'accroche, là ça ira pour le troisième. Donc ça a été plutôt comme une délivrance. Je me suis dit, on retire ce polype, on va faire le troisième, et puis voilà. Alors non, les médecins m'ont jamais dit clairement ce que j'avais. Je sais que j'ai un médecin qui m'avait demandé si j'avais pas eu une infection. Elle savait pas vraiment. Donc, après la deuxième, quand j'ai fait ma PMA, on m'aurait dit que j'aurais peut-être, mais pas vraiment, c'était pas clair non plus. Que j'avais tendance à avoir beaucoup de follicules, etc. Peut-être des symptômes des ovaires polykystiques, le SPOC, le SOPK, ça n'a jamais été vraiment clair. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Parce que finalement, tout allait bien, puisque j'ai eu mes grossesses naturellement. Ils ne savent pas. J'ai jamais eu de non. Sur ce point, c'est flou. C'est flou, et puis tant que tu rentres pas dans un parcours PMA, tu sais pas forcément que tu as par exemple un SOPK. Tu as des règles douloureuses, que tu as effectivement certains symptômes de l'acné, une pilosité parfois importante, etc., etc. Mais parce que moi, je ne connais pas tous les symptômes, non, j'ai pas eu de diagnostic. Oui, j'ai décidé d'arrêter ce parcours PMA avec mon mari, tout simplement d'un commun accord. On s'est dit que là, on allait faire une pause, que moi, j'avais quand même pas mal dégusté ces temps-ci. Que finalement, c'est l'année dernière qu'on a décidé d'arrêter. Donc, qu'on a laissé les choses se faire, que les miracles, ça existe toujours. Donc, moi, c'est ma foi, et ce que j'ai eu aussi, ce que j'ai ressenti, mais c'est personnel, mais avec mon mari. Et puis c'est cette pause et toutes ces injections. Je dis pas ça pour faire peur, mais quand on va lire par exemple les ovules de progestérone qu'on doit mettre après l'embryon, quand on voit dedans, j'encourage, je suis pas là pour anéantir les médecins, etc. Je fais vachement. Subtilité, la précaution, j'y vais parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font des parcours PMA et que je ne voudrais pas, mais je sais que moi je fais attention, j'essaie d'être attentive quand j'ai un médicament, je le regarde. Et là j'ai vu qu'il y avait du dioxyde de titane dedans, donc dioxyde de titane qui est potentiellement classé comme cancérigène. Donc tout ça, je me suis dit là, je vais m'arrêter un peu, même mentalement, je vais m'arrêter. Mon mari était aussi OK sur ça. Donc on a fait une pause et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, déjà, j'avais cette psychologue, enfin, au départ, je n'en voulais pas. Je ne voulais pas du tout avoir de soutien de psychologue. Parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis du milieu ou je ne sais pas. Je ne ressentais pas ce besoin d'en discuter avec une psychologue. Ensuite, comme je te disais, en 2019, là, quand j'ai repris mon parcours et que j'ai eu les 3 embryons, qui n'ont pas tenu, et mon métier, on fait que là, j'ai craqué. Donc, j'ai vu cette psychologue qui était ma collègue et qui a su faire la part des choses et qui m'a très bien soutenue, qui était très bien soutenante, qui savait que quand j'étais absente de la PMI, elle venait me voir. Donc, voilà, j'ai trouvé ça m'a beaucoup aidée. Elle en faisait pas trop. Et puis je voulais pas, mis à part la psychologue, après je voulais pas trop en parler à beaucoup de monde parce que je voulais pas non plus qu'on ait que cette image de moi. Parce que après, je pense que les réflexions, mais j'en reviendrai tout à l'heure, étaient suffisamment douloureuses. Je voulais pas à ce moment-là qu'on me voit comme cette femme qui n'a pas d'enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Même si je sais très bien qu'au bout de, voilà, de 10 ans, de 10 ans de mariage sans être enceinte, les gens ils se posent la question. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore prête jusqu'en 2019. Et puis en 2000, enfin jusqu'à ce que j'en parle à ma collègue. Mais par contre, l'année dernière, en 2022, même un peu avant la Covid et tous les confinements, j'ai commencé à avoir ce besoin d'en parler. Et d'en parler autour de moi, d'en parler à des personnes de confiance, des personnes avec qui je pourrais être à l'aise. Donc j'ai eu des cousines autour de moi qui ont subi des choses aussi dans leur maternité ou pas, des choses difficiles à qui je me suis confiée. Ou pas forcément dans leur maternité, hein, mais aussi dans leur vie de femme, de leur vie de fille aussi. Et où je savais où j'aurais pu avoir une oreille attentive, pas juste un questionnement curieux ou juste savoir pour aller raconter aux autres. Voilà. Donc j'ai commencé à en parler. Mon mari, lui aussi, a décidé d'en parler à sa mère. Et puis moi, en juin 2022, même un peu avant, hein, où j'ai eu cette idée de vouloir faire le podcast, je suis allée vers l'association Agapa. C'était durant la période de Covid, où j'ai fait... ils ont fait un groupe pour les femmes qui étaient mères, qui ont eu des grossesses extra-utérines. Et franchement, j'ai trouvé ça super, parce que du coup, le titre, c'était « Vous aussi, vous êtes mère ». Vous avez eu des grossesses, certes extra-utérines, mais vous avez été mère. Vous avez aussi, on a bifurqué sur les fausses couches. Et ça m'a fait extrêmement du bien parce que je me suis dit, effectivement, j'ai été mère. Été mère, peu importe ce qu'on peut dire, j'ai été mère de 3 enfants. Et après, au mois de juin, j'ai participé à un groupe également. Et je crois que je me suis lâchée. J'ai entendu ces femmes, ces couples qui ont traversé des épreuves vraiment... Mais... En fait, les épreuves sont adaptées à chaque personne. Les épreuves que tu as te sont données parce que tu sais... Même si elles ne sont pas faciles et que personne n'en veut, en fait, ce n'est pas joyeux d'avoir des épreuves, mais elles sont faites pour toi. Tu as cette capacité de vivre ton épreuve. Les épreuves des autres dans ces groupes, je n'aurais pas pu les vivre. honnêtement, j'aurais pas pu. Et c'était... En fait, j'avais besoin d'en parler également parce que moi aussi, j'étais plus au travail à ce moment pour des raisons personnelles. J'ai pas fait de vaccination de Covid, j'ai pas eu les injections, donc on m'a dit bye bye. Et du coup, cette période, ça m'a permis également de me recentrer sur moi et j'ai senti que j'avais besoin d'en parler, besoin de me retrouver avec des personnes. Et en juin 2022, comme quoi je retiens super bien les dates, je me suis retrouvée dans ce groupe. J'ai pleuré. Et il y avait une psychologue qui, quand je lui disais que maintenant, quand je vais voir les médecins, pourtant je suis dans le milieu et tout, mais il y a l'effet blouse blanche, mais c'est pire que l'effet blouse blanche. J'ai ma tension qui monte, j'ai mon cœur qui bat, j'ai les mains moites. Je stresse avant même de rentrer dans le cabinet. Et en fait, elle m'a dit, ben, c'est normal. Parce que vous, tout ce que vous avez vécu, c'est un traumatisme. Et le fait d'avoir mis le terme sur ce que je vivais, je me suis dit, bah ouais, Cynthia, c'est un traumatisme que tu as vécu. Tu es dans le milieu, mais tu ne te rends même pas compte. Maintenant, c'est toi et tu as vécu un traumatisme. Et tu en as vécu, tu as enchaîné les traumatismes, et les traumatismes silencieux. Voilà, moi j'encourage les femmes de le faire quand elles veulent, quand elles le sentent, et pour se libérer. Vraiment, même si c'est pas un psychologue, mais au moins une personne de confiance. Donc, c'est ce qui m'a aidée, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, en plus, je le fais aussi, tu vois, à travers ton podcast. Donc, je continue mon chemin de guérison, je continue à me libérer de tout ça avec aussi l'accord de mon mari parce que c'est, enfin, je l'aurais quand même fait s'il ne voulait pas, mais c'est notre chemin à tous les deux. Donc c'était aussi important pour moi qu'il sache que je fasse ce podcast. Mais voilà, je commence à me libérer, à en parler, je continue. Premier parcours PMA que j'ai fait qui était catastrophique. Parce qu'effectivement, je suis allée voir une gynécologue de ville, mais c'était dans le 16e arrondissement, mais qui était débordée, qui était complètement débordée. Donc, quand je lui envoyais mes résultats de grossesse, elle n'était pas là, la secrétaire de grossesse, mes résultats de prise de sang pour pouvoir faire les injections, pour adapter le dosage, etc., ou pour même déclencher ensuite l'ovulation, pour bloquer l'ovulation, elle n'était pas là. Je devais attendre, être dans le stress, la rappeler, envoyer des mails, et je trouve que c'est un parcours où on est déjà suffisamment oppressé pour avoir une telle prise en charge. Et heureusement, des fois, et je ne sais pas comment j'ai eu cette capacité, vu que quand j'étais libérale à cette époque, je faisais ces injections aux femmes, et je peux vous en dire qu'il y en a beaucoup, malheureusement, je comprenais qu'il fallait mettre, par exemple, certaines injections au frigo, par exemple. Je savais qu'il fallait les faire à heure pile, que le dosage était souvent augmenté. Enfin, je savais ça. Et il y avait certaines choses... Elle m'avait dit de faire telle dose, mais par exemple, elle ne m'avait pas dit qu'il fallait que je le fasse au milieu de la nuit. Et c'est moi qui étais obligée de l'appeler pour lui dire « Oui, mais là, je crois qu'il faut que je déclenche. » Je ne pourrais pas te dire exactement comment ça s'est passé, mais déjà, au niveau des transmissions, au niveau de cette prise en charge, au niveau du cabinet libéral, c'était catastrophique. Vraiment, cette secrétaire, elle faisait du mieux que je pouvais, mais cette femme, ce docteur qui était libéral et qui opérait aussi à l'hôpital, était complètement sous l'eau, je pense. Et si tu ne l'appelais pas, en fait, elle ne regardait pas tes résultats. Voilà. Ensuite, quand je suis allée dans cet hôpital qui est très réputé aussi dans le 16e arrondissement, moi j'ai fait confiance, je connaissais pas le parcours, enfin voilà, là je suis plus infirmière, je suis patiente, donc des fois il y a des choses qui pour moi me semblent évidentes et que j'avais pas demandé tout de suite sur le coup, évidentes. j'ai pas été correctement prémédiquée, donc tout ce qui est, prenez un antalgique en amont ou un anxiolytique en amont, par exemple, ça, je l'ai pas eu. Quand on m'a posé la question, j'ai dit, ah ben non, c'est vrai, effectivement, elle me l'a pas donné. Et puis forcément, après, malgré l'anesthésie locale, j'ai bien dégusté après. Le fait d'avoir la vessie pleine le matin, et puis tu te retrouves sur la table avec l'écho, avec ta vessie qui est remplie. Une vessie, ça se remplit en 45 minutes, donc tu bois une heure avant si c'est pas plus. Tu as pris des embouteillages pour y aller, ta vessie, elle est pleine. Apprécier le moment du transfert d'embryon avec la sonde sur le ventre, sur le pelvis, c'est douloureux. Et donc, ensuite, on te dit de rester deux petites minutes allongée. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de me lever pour aller aux toilettes. Donc, c'est ce côté-là. Et puis, moi, je n'ai pas eu d'appel après les deux précédents, avec ce médecin, avec ce docteur libéral, j'ai pas eu d'appel après pour me dire comment s'est passé la ponction ovarienne, comment vous l'avez vécu, les deux embryons que vous avez pas eu, est-ce que vous voulez poursuivre la PMA. J'ai pas eu d'échange. Alors le deuxième parcours là, c'était super. J'ai été bien suivie de A à Z. Et on m'appelait, c'était bien. Et puis après, quand on fait le parcours, on a cette fatigue et puis cette intimité qu'on n'a pas normalement quand il y a fécondation, quoi. Et puis l'intimité aussi, faut aller, des fois, il faut que tu ailles faire une écho pour voir à quel stade tu es au niveau de tes follicules, mesurer ton endomètre et ça peut être très bien pendant tes règles. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident on te met une sonde endovaginale et t'as tes règles en même temps. Voilà, c'est tout ce côté-là qui est épuisant, fatigant, stressant. Donc, je souhaite en tout cas un bon courage à toutes ces femmes qui sont actuellement en parcours et surtout... qu'elles aient une personne soutenante autour d'elles. Avec mon mari, c'était... Je dirais que... Franchement, j'ai un mari super. J'ai un mari super. Il était présent dans toutes les étapes. Dans toutes les étapes. Il était soutenant. Il était triste quand il fallait être triste, mais il n'a jamais... baisser les bras. Il a toujours été optimiste. Il a toujours été présent durant les opérations, pris soin de moi. Puis il a beaucoup prié aussi pour moi, pour nous. Donc je pense que nous, honnêtement, ce qui nous a aidé à traverser ce parcours, c'est notre foi. Et je cracherai pas dessus. Je pense que peut-être que beaucoup ne comprendront pas, certains diront « bon, t'as la foi, mais t'as toujours pas de bébé, par exemple ». Mais la foi, c'est espérer que quelque chose va arriver, c'est savoir que quelque chose va arriver. On ne sait pas comment, et c'est ce qu'on appelle le miracle. Et c'est ce qui nous a permis de tenir. Donc, mon mari ne m'a jamais... dit de propos négatifs. Il ne m'a jamais dit on arrête là, on sera jamais parents. Non, jamais. Il a été aussi très protecteur, peut-être même encore plus. Donc, certes, oui, il y a la souffrance des échecs, il y a le souhait d'avoir cet enfant. On espère à chaque fois, donc après il y a la désillusion, mais on reprend, quand il faut reprendre espoir, on reprend espoir quand le moment est venu, parce qu'il ne s'agit pas de refouler ce qu'on ressent, pas du tout, on vit le moment, Mais non, je pense que nous, on est encore plus soudés. On est encore plus soudés, honnêtement. C'est ce qui fait notre force. C'est parce qu'on a la même vision, la même foi, et on y croit. Donc on a vécu ce parcours, ces moments à deux. C'est là où ça prend tout son sens quand on dit qu'on vit les choses à deux. J'ai eu de nombreuses questions maladroites, honnêtement. Et les premières questions les plus maladroites viennent de ton entourage. Alors maintenant, c'est vrai que je dirais que, vu qu'ils savent pas, voilà. Mais en fait, on a une idée d'un parcours, et ça c'est la société qui le veut, d'un parcours très linéaire, d'un parcours très tracé. Donc t'es enfant, tu étudies, t'as ton travail, tu rencontres ton conjoint, tu te maries, tu as des enfants, tu es proprio et t'as un chien et un jardin. Et en fait, la vie, c'est ça. Et c'est pour ça que je préfère dire ça en amont de ce qui va suivre, c'est que je ne leur en veux pas parce que c'est un conditionnement. Mais sur le coup, c'est très douloureux. Alors, pour tout te dire, ma première réflexion que j'ai eue, c'est toujours dans ma sphère familiale, c'est lorsque je commençais à faire le parcours PMA et j'étais toujours chez une cousine. Et il y a un de ses amis qui me dit, parce que moi, je suis pas mince, mais je suis pas grosse non plus. Et il me dit, mais avec la taille, j'ai une taille, voilà. Et il me dit, où est-ce que tu vas mettre ton... Avec ton ventre, parce que j'ai un ventre plat, en tout cas peut-être plus à cette période. Il me dit, avec ta taille là, où est-ce que tu vas mettre ton bébé? Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et en plus, je me souviens, c'était l'anniversaire de ma cousine. Donc toi, t'es là, tu parles et puis tu dis, punaise, si tu savais. Et voilà, donc j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu aussi, c'est pour quand le bébé? C'est pour quand le bébé? Et après, aussi au niveau des proches de mon mari qui ne savaient pas à ce moment-là que je ne pouvais pas avoir d'enfant, où j'ai carrément dit à mon mari de dire, par exemple, à sa mère, mais c'est pas méchant, mais de lui dire de ne plus me poser cette question parce que toi, tu lui dis pas, mais moi, ça me fait de la peine d'entendre ça. Après, l'autre réflexion que j'ai pu avoir, c'était la naissance du premier enfant de ma cousine en 2017. Moi, à ce moment-là, je cherchais du travail en plus. Je venais d'être diplômée, donc après la fausse couche, donc que j'ai eue en fin novembre, là, début décembre de 2017. Et elle a dû accoucher en mars 2017. Et puis, son papa qui me dit « t'as quel âge maintenant ?» Et je lui dis j'avais 34 ans. Il me dit 34 ans, il faut s'y mettre hein, parce que l'âge commence à... Enfin, tu commences à prendre de l'âge. Et j'ai dû... En fait, sa fille venait d'avoir son bébé, donc je rendais visite à la maternité. Donc là aussi, je te laisse imaginer mon état. T'as juste envie de dire, mais tais-toi, parce que là, il y a 2 mois, 3 mois en arrière, j'étais en train de pleurer parce que j'ai fait une fausse couche à la maison. T'as beaucoup et toi c'est pour quand l'âge monte j'ai eu aussi il y a aussi les réflexions anodines où par exemple on, tu te retrouves en famille et puis on te dit toi maintenant que t'as on dit à celle qui est à côté de toi c'est un tel t'es mariée maintenant t'as ton bébé et puis on te saute et puis on dit à l'autre. Donc, ça veut dire que toi, tu sais, on pense que tu n'as pas de bébé, que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais on ne te pose pas vraiment la question, ou on n'a jamais cherché à savoir, mais on préfère te sauter comme si, tu étais invisible. On a dit que tu es mariée, mais on préfère passer à l'autre. Aussi pas plus tard que cet été, où quand je dis mon âge, ben, effectivement, j'avais pas encore. J'ai eu mes 39 ans en septembre, mais voilà, en cet été. On me dit, ah oui, ben, t'es mariée. Bon, ben, attention, hein, parce qu'il faut pas laisser pourrir. Hein. Voilà, il faut y aller là, parce que sinon, après, entre guillemets, c'est périmé. Hein. Voilà, des choses comme ça. Où on vient, un enfant qui vient tout simplement pour dire « Mais toi, c'est pour quand le bébé ?» Ça. Donc, beaucoup de réflexions, beaucoup de... J'en ai encore d'autres, mais je préfère même pas trop aller plus loin, mais j'en ai pas mal. Pas mal comme ça. Et c'est surtout toujours des réflexions. On fait jamais ces réflexions-là à mon mari. Hein. C'est toujours... à moi que c'est toujours envers la femme. Voilà, ou quand on fait une acquisition, ou quand on faisait visiter une maison, et puis on dit, ah bon, bah, le F2, bah, faut le remplir, là. Des choses un peu qui, sur le coup, sont... Enfin, faut remplir les chambres. Des choses qui sont... qui peuvent parfois paraître maladroites, mais qui font énormément de mal. Ou, tu sais pas, vous voulez que je vous fasse un dessin? Ça aussi, j'avais eu ça, mais il y a très longtemps, pour avoir un bébé. Voilà. Donc, des réflexions très douloureuses, très marquantes. Et honnêtement, je peux les écrire sur un livre. Mais à ce stade, déjà d'en parler, de le dire là, ça me fait du bien. J'aimerais que les gens qui entendent ce post puissent prendre conscience que tout n'est pas tracé, que tout n'est pas linéaire, qu'on a chacun notre parcours. Certains deviennent maman très jeune, d'autres plus tardivement, d'autres par d'autres moyens, mais qu'il n'y a rien qui est linéaire. Et que si vraiment vous avez ce questionnement, essayez de voir déjà, d'en discuter avec la personne concernée, de voir par rapport à sa réponse si elle pourra rentrer en profondeur ou s'il faut vous arrêter, mais de pas arriver alors, je dis ça parce que moi aussi, hein, j'ai pu le faire malgré moi, c'est m'arrivé de dire ah, t'es enceinte, parce qu'une maman avait déjà eu un enfant et qu'elle avait mis un habit qui faisait comme si elle était enceinte de quelques mois. Donc on est très mal à l'aise. Mais au-delà de ça, rien n'est évident. Donc arrêtez ces questions blessantes, d'arrêter d'aller voir cette femme, de lui dire « toi, c'est pour quand ?» de lui rappeler son âge, de lui rappeler qu'elle n'est pas mère, de lui rappeler ou quand elle donne des conseils que toi, tu ne peux pas savoir. Tu sauras quand tu es enceinte ou quand il y a un partage de femmes enceintes, dira bah oui, mais toi, tu n'as pas encore été enceinte, donc tu n'as pas connu les nausées ou tu n'as pas connu ces symptômes de grossesse, tu verras. Parce qu'en fait, c'est maladroit, c'est certes maladroit, on pardonne, mais c'est blessant, c'est frustrant. Prenez le temps d'aller vers l'autre, prenez le temps de voir cette femme. Maintenant, oui, ça fait 10 ans. qu'elle n'a pas d'enfant, tu vois qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, donc forcément tu te poses cette question. Mais si le lien est sincère, si le lien est vrai, peut-être que ce couple, cette femme, cet homme te dira. Et moi aujourd'hui, grâce au groupe de parole, je suis apte à dire que oui, j'ai eu 3 enfants. J'ai même fait un bracelet avec leur date de naissance, puisque c'était quelque chose qui avait été conseillé de faire un présent pour dire que de s'offrir quelque chose qui nous rappelle qu'on a été maman. Et je suis heureuse de dire que maintenant, si on me pose la question, je dis oui, j'ai eu 3 enfants, 3 grossesses, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les connaître. Voilà, et comme ça passe, on passe à autre chose. Mais toutes ces réflexions autour de l'âge, et ou parce que ta fille a eu un enfant ou parce qu'autour de toi il y a des naissances. Voilà, tout simplement évitons ces questionnements, réfléchissons, prenez le temps, prenons de la distance.
ces grossesses extra-utérines répétées, après ces fausses couches qui m'a permis de tenir, c'est vraiment ma foi, je me répète, il n'y a rien de nouveau dans ce que je viens de dire, mais moi c'est mon bâton, c'est mon soutien, je garde espoir, je garde foi, je lâche prise aussi, je lâche prise parce qu'en fait je contrôle rien. Donc si je me dis, chose que j'ai faite à un moment quand même, hein, je me disais, oh ce mois-ci j'ai encore mes règles, et je pleurais. En plus je vis pas très bien mes règles, donc je vous dis pas, toute cette sphère gynécologique, l'utérus, voilà, toute cette sphère, j'étais pas en guerre, mais presque, avec elle. Heureusement, je suis aussi allée voir un ostéopathe, hein, qui m'a aidée aussi, parce que la manipulation à ce niveau-là, c'était tendu. Mais c'est ma foi, faut se raccrocher à Dieu, faut lâcher prise, parce qu'on s'inquiète, en fait, et on peut rien faire. Je m'inquiète, qu'est-ce que ça va changer à la solution? Mais là, je peux le dire parce que je me sens prête. C'est un processus. Les femmes qui viennent de vivre la grossesse, les femmes qui viennent de vivre une perte, elles ne vont pas penser comme ça. Mais moi, avec ce recul et avec cette envie maintenant de cette vision que j'ai, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en discuter, je lâche prise. Je lâche prise sur les événements. Je n'ai pas le contrôle. Je ne sais pas quand je vais devenir mère. Je ne sais pas quand mon mari aura cette chance et ce bonheur d'être père. Je sais que ça arrivera au moment voulu, au moment que Dieu aura décidé. Je sais que je suis en phase avec ça, que je suis au clair avec moi-même. Si c'est un parcours PMA que je dois reprendre, j'en reprendrai un, mais honnêtement, je ne pense pas. Là, je suis... c'est ce qui m'a permis de tenir après ces trois grossesses. C'est ce qui m'a permis aussi d'enchaîner les PMA. C'est ce qui m'a permis de ne pas tomber aussi dans la dépression. C'est ce qui m'a permis de continuer au travail, de conseiller encore ces femmes, d'accompagner ces femmes. C'est ce qui me permet de comprendre aussi les femmes quand elles viennent et qu'elles me racontent, sans savoir que j'ai subi moi-même, que je suis dans la même situation, de les comprendre et de mieux les accompagner. Quand tu me reçois une femme qui a fait 6 fausses couches, ou qui est arrivée à 6 filles, ou qui a dû partir en Espagne, tu ne peux rien dire, mais j'ai pu les accompagner, j'ai pu les entendre. Elles sont un témoignage pour moi parce qu'elles sont devenues maman. Donc je lâche prise, j'ai lâché prise et je garde ma foi, et c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui m'a fait tenir après mes 3 grossesses, c'est ce qui me fait faire ce podcast avec toi Stéphanie, pour que toutes ces mères soient encouragées, celles qui sont dans des processus, celles qui viennent de perdre un enfant, celles qui même ont accouché d'un enfant mort-né. Je leur dis pleurer cet instant, vivez cet instant, enfin, c'est triste, mais voilà. Ensuite, raccrochez-vous à Dieu. Et ça a l'air simple quand je le dis, peut-être que certains rejeteront ce que je dis, mais ça aide, en tout cas moi ça m'aide, et puis qui sait, peut-être que dans quelques temps, peut-être que dans quelques mois, peut-être, je ne sais pas, peut-être que je pourrais te dire, Stéphanie, je suis enceinte, j'ai mon miracle, on ne sait jamais. Donc je lâche prise, je fais confiance, je fais ma vie, ce jour viendra, peu importe dans la manière viendra. Voilà, j'ai 39 ans aujourd'hui, je n'ai jamais pensé avoir des enfants tôt. Mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, à 39 ans, je n'aurais pas eu d'enfant. Mais maintenant, je me focalise plus sur l'âge, comme j'aurais pu le faire, parce que, comme je te l'ai dit, je ne contrôle rien. c'est pas moi qui décide. Et on entend tellement de témoignages, il y a tellement de miracles parmi nous, que voilà, je me dis pourquoi pas moi? Et puis, voilà, je pense que ça serait un lâcher prise. Et puis moi, dans ma fonction, eh bien, voilà, je peux toujours accompagner ces femmes, même si je ne suis pas mère encore, mais je prends plaisir à accompagner les futures mamans, les mamans et leurs enfants. Donc, voilà. Et je souhaite encore beaucoup de courage, de persévérance et je souhaite au couple, à ces femmes qui veulent des enfants, je souhaite vraiment que ce désir se réalise.
Chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps d'écouter le récit de Cynthia, qui est une ode à la résilience, à la force intérieure et à la persévérance face aux défis de la fertilité. À travers ces expériences, nous avons traversé avec Cynthia des moments de joie et d'espoir, mais également les épreuves déchirantes, des fausses couches, des grossesses extra-utérines et des échecs en PMA. Son courage est une source d'inspiration pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans des situations similaires. La décision d'arrêter le parcours PMA, après tant d'années, est un témoignage de résilience et de capacité à reconnaître ses propres limites. Choisir le chemin de la spécialisation en tant que puéricultrice a ajouté une dimension unique à son parcours, reflétant sa passion et son engagement envers le domaine médical. L'ablation de sa deuxième trompe en 2019, marquée par une date qu'elle n'oubliera jamais, a été une étape déchirante. Les moments difficiles suivis de la pause et de la reprise en PMA ont jeté une lumière crue sur la complexité émotionnelle de ce voyage. L'opération du polype et les transferts d'embryons, bien que non couronnés de succès, ont représenté des moments de courage et de persévérance. Sa décision d'arrêter le parcours PMA après des années d'efforts démontre une force intérieure exceptionnelle. Qui sait, un petit bébé miracle n'est pas impossible, notamment par l'adoption. Cynthia a traversé des épreuves qui mettraient à l'épreuve la résilience de chacun. On la remercie sincèrement en tout cas d'avoir partagé son histoire, parce qu'elle apporte lumière, compréhension et espoir à ceux qui pourraient être en quête de réponse et de solidarité. En écoutant son récit, nous sommes témoins de la puissance de la voix et de la compassion, et nous lui souhaitons tout le bonheur dans ses futurs projets, quels qu'ils soient. Sa force et son ouverture laissent une empreinte indélébile et contribuent à briser les tabous autour des défis de la fertilité. N'hésitez pas à retrouver Cynthia sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en description. Je compte sur vous, restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. À tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, le podcast où chaque femme est unique mais certains parcours de santé s'entremêlent. À bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous.